Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Et ce lundi 16 décembre, c'est la première d'une série d'émissions spéciales Noël. Jusqu'à vendredi, Canal B vous donne des idées de cadeaux culturels et artisanaux à mettre au pied du sapin. Aujourd'hui, retour sur trois coups de cœur littéraires dont on vous a parlé sur cette antenne en 2024. Évidemment, ces ouvrages, on va les retrouver en rayon, en librairie indépendante, histoire de faire vivre nos commerces locaux.
Oh, oh, oh. Merry Christmas.
Et on commence avec un extrait de l'interview de Lune Huillemin, réalisée au mois d'avril dans le cadre de la fête du livre de Bécherel. Bordée la bête, c'est le nom du premier roman de cette autrice qui vit aujourd'hui dans le sud de la France et c'est paru aux éditions La Contre-Allée en début d'année. Alors j'ai lu que vous aviez exercé plein de métiers très différents, notamment lorsque vous avez vécu au Canada, jardinière, femme de ménage, aide-cuisinière, road tripeuse. Moi, celui qui m'interpelle, c'est celui de soigneuse d'animaux sauvages, donc des animaux qui ont en commun d'être souvent victimes de l'homme, avec un grand H. C'est de là que sort Ardenne, l'un des personnages du trio qu'on découvre dans Bordée la bête, de cette expérience-là, de soigneuse d'animaux sauvages.
Oui, alors Ardenne, donc qui est dans le roman Bordée la bête, c'est un personnage qui est fictif, hein, c'est quelqu'un qui n'existe pas dans la vraie vie, ou alors que je n'ai pas rencontré. Mais le refuge pour animaux sauvages dans lequel se passe quasiment tout le roman est né de mon expérience dans un refuge qui est différent et en même temps qui pourrait y ressembler beaucoup. Je me sers de mon expérience surtout pour ce qui est des journées de travail et des gestes qu'on fait qui ne sont pas des gestes qu'on fait tous les jours et surtout de cette idée un peu idéaliste qu'on pourrait avoir du travail avec des animaux. Oh, on va sauver des animaux, ça va être super, je vais me lier avec des bêtes sauvages et un peu comme dans les films. Et en fait, justement, Ardenne en parle à un moment dans le roman et dit on a beaucoup de gens qui viennent pour travailler ici avec cette idée un peu romantique du lien à la nature et aux animaux. Et en fait, ils se rendent compte qu'au bout de quelques jours, ils sont le soir éreintés, ils ont mal au dos, ils ont mal aux mains et ils sentent la merde, l'urine,
le sang.
Voilà.
Et d'ajouter, ici on ne travaille pas avec les bêtes, on travaille pour elles. Alors dans ce refuge, il y a des opossums, des coyotes, des renards, des biches, des ratons laveurs, des loutres qui sont donc soignés, nourris et puis relâchés, surtout à la période du printemps. Cette narratrice, on sait qu'elle a été brasseuse, que son ami, qui était comme un deuxième père pour elle, est mort et qu'elle fuit les plaines de l'Ouest avec les cendres dans son sac. Elle croise alors la route d'Ardenne, une femme aux mains araignées, et puis Jeff, l'homme à l'œil de verre. Et il y a presque quand même un quatrième personnage dont vous parlez à la troisième personne, c'est la Babine.
Oui, Babine, c'est une rivière. Alors, il y a une rivière qui s'appelle Babine, qui existe vraiment, mais qui est en Colombie-Britannique. Alors, roman se passe dans un refuge que je ne nomme pas de province, d'État ou de ville réelle dans le roman, mais c'est un petit peu un collage entre des morceaux d'Ontario, des morceaux de Colombie-Britannique et un petit peu des Pyrénées, donc en France. Donc il y a vraiment une rivière Babine qui existe en Colombie-Britannique, mais ce n'est pas la Babine du roman, qui est une rivière fictive, qui a un autre dessin de lit et d'autres voies.
Et qui prend donc beaucoup de place dans votre récit.
Qui prend beaucoup de place, c'est une rivière qui est très très bavarde, elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à chanter, et c'est vrai qu'au printemps, il y a beaucoup de descriptions du printemps où Babine se transforme et devient un peu une espèce de chanteuse d'opéra.
Qui n'écoute plus personne.
Qui n'écoute plus personne et à qui on ne peut pas faire confiance.
Bordée la bête, c'est donc ce que tentent de faire tant bien que mal là, les personnages que j'ai présentés, Ardenne et Jeff, qui travaillent dans un refuge, accompagnés de la narratrice, tant bien que mal, puisque le récit s'ouvre sur le sauvetage d'un animal qui échoue, et ce qui vous amène à cogiter tout au long du roman sur les relations entre humains et non-humains. On est, nous, dans une société, évidemment, qui est spéciste. Là, il y a d'autres choses qui se jouent dans ce roman-là, loin du spécisme.
Oui, et en même temps, j'espère que je montre quand même aussi les contradictions les contradictions de ces personnages qui dédient leur vie aux soins des animaux sauvages, et en même temps le fait de récupérer un animal sauvage dans la forêt, de l'amener au refuge, de le garder parfois tout un hiver, voire pendant un an, il y a quelque chose de l'ordre de l'interruption, de quelque chose de naturel, et en fait on intervient, c'est une intervention humaine, donc encore une fois, donc c'est un livre qui pose beaucoup de questions, il répond peut-être pas à toutes. Mais effectivement, il y a cette recherche un peu là de notre place, de à quel moment on intervient, pourquoi, et puis ouais, toutes ces contradictions pour tous les personnages, Jeff, Arden, que la narratrice voit parfois un petit peu comme des personnes extraordinaires qui savent ce qu'ils font, etc. Et en fait, on se rend compte que non, il y a des points, alors certes d'humilité, et c'est ce qu'elle apprend en fait, hein, c'est que, et c'est ce que je
pense.
C'est
sans doute la clé.
Voilà, c'est la clé pour moi. Mais. Personne n'est exempt de contradictions et
de fragilité.
De fragilité.
Entre les lignes, il est aussi question de corps, de violence, de deuil, à plusieurs reprises. Le travail macule et fait taire les souvenirs, ça ce sont les mots de la narratrice, et c'est pour ça qu'elle reste au refuge. Ce qui va l'aider à digérer la perte, c'est de trouver la juste place pour ses fantômes, et puis pour ça, de s'entourer de vivants, qu'ils soient humains ou non humains, mais il y a vraiment une réflexion sur le collectif et la communauté autour de soi.
Oui, et puis la narratrice va aussi, avec Jeff, passer beaucoup de temps en forêt à écouter et à essayer de porter son attention sur autre chose qu'elle-même. Et en même temps, l'écoute dans la nature ne se fait pas que par les oreilles, mais par le corps. Les sons, tout ce qui se passe autour de nous, ce sont des sons, des musiques, des bruits ou des silences qui nous traversent et qui, voilà, se font écho, se répercutent, vibrent en nous. Et donc, il y a quelque chose qui passe par le corps, et c'est quelque chose qu'ils font à deux. Et un petit peu comme un jeu, moi je les vois comme des enfants hein, qui jouent, qui peuvent passer des heures entières à jouer, à la recherche de quelque chose qu'ils n'atteindront peut-être jamais. Et ça lui permet, comme tu as dit, de digérer, j'aime bien ce mot-là, hein, digérer son deuil, sa colère, tout ce qui la traverse. C'est par le soin aux autres et par la recherche d'une humilité pour mieux porter son attention sur autre chose que soi-même.
Au mois de juillet, on a ensuite accueilli Caroline Hino en studio. La Rennaise a publié son deuxième roman au mois de mars aux éditions du Rouergue. Ça s'appelle « Traverser les forêts » et on prend là la direction de la dernière forêt primaire d'Europe. À l'automne 2021, des migrants se sont retrouvés pris au piège à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Tout ça par une manœuvre du dirigeant biélorusse. Le roman dont on parle, il s'inspire de ces faits. « Tu ouvres la portière et l'air du dehors t'attrape la narine ». Claque olfactive après la touffeur de la voiture. En une fraction de seconde, la forêt te dresse les vibrisses et t'écarquille les sinus pour y planter sa marque odorifère. Une fragrance unique d'herbes sauvages, de résines et d'organismes en décomposition. Pendant que ton guide tente d'ouvrir la porte de la cahute cyclope, le cadenas lui donne visiblement du fil à retordre, tu en fais rapidement le tour, en observes le bardage et les nœuds du bois, micro-cyclone qu'on dirait prise au piège du fleuve des veines. Sous tes chaussures, tu sens grouiller tout un monde dans le sol de feuilles et de brindilles. Alors curieusement, dans cette forêt qui grouille d'animaux plus ou moins gros, on va notamment croiser des bisons, mais qui est aussi plein de ronces, le plus grand danger se situe plutôt du côté des hommes, qui se renvoient donc d'un côté et de l'autre des barbelés. D'autres hommes, traités comme des nuisibles, ils sont là les animaux.
Ben, en tout cas, c'est vrai que je trouve que ce qui est intéressant dans le roman, dans la forme romanesque, c'est que ça n'est pas un essai philosophique, c'est donner corps à des êtres humains qui sont par essence ambivalents. Et donc le livre ne propose pas, enfin je ne crois pas, parce que c'est pas du tout mon objectif, il n'y a pas le bien et le mal, il n'y a pas les gentils et les méchants, il y a des personnages aux prises avec un monde qui les dépasse, comme nous tous je crois, et il faut faire avec ses impuissances, avec sa volonté aussi, avec ses idéaux, avec ce qu'on a en nous, avec notre histoire, tout ce qui nous meut, nous anime. Et ce qui est intéressant dans la fiction, c'est que ce sont des personnages qui incarnent ça. Donc moi, j'ai aimé écrire sur ces trois femmes qui sont à certains titres ambivalentes et qui doivent se positionner parce que le réel les amène à se positionner véritablement. Et donc j'avais l'impression d'écrire à la fois des conflits éthiques intérieurs très forts pour chacune d'entre elles. Alors pour une qui est une réfugiée, le conflit éthique est moins fort, elle, il faut survivre. Pour les deux autres, il y a vraiment... pour moi, un travail introspectif, une vraie réflexion. Et c'est aussi l'histoire d'émancipation pour moi. Ce sont trois trajectoires d'émancipation, trois traversées.
On va les présenter, ces trois femmes. Il y a Vera, journaliste biélorusse qui s'est réfugiée dans une cabane qu'on appelle le sous-marin. Elle est arrivée au printemps par le biais d'une ONG environnementale. Nina, qui elle a rêvé que sa beauté lui ouvrirait les portes de l'Occident et qui occupe avec son fils Milan l'ancienne maison forestière de ses parents. Et puis Alma, une migrante qu'on pourrait imaginer syrienne, je crois que c'est pas précisé. Hein.
Oui, alors c'est suggéré.
C'est suggéré. Et qui tente donc de traverser la frontière avec son cousin Bessem. Comment est-ce que vous en avez dessiné les contours de ces trois personnages principaux, puisqu'il y en a d'autres, et puis qu'est-ce qu'ils vous permettent de raconter ?
Alors moi je voulais déjà absolument que ce soit trois femmes qui fassent ces traversées, qui sont absolument pas prises dans soit des histoires d'amour ou qui soient les seconds rôles des hommes pour le coup. Elles sont chacune plus ou moins à la barre de leur existence parce que justement c'est difficile d'être à la barre de son existence. Et donc moi comment elles sont venues à moi finalement, c'est il fallait que chacune ait un trouble et une question qui se pose à ce moment-là de sa vie, et pour chacune, elle est différente et ça s'incarne après dans un corps et dans un langage. Donc pour Alma, la jeune réfugiée, c'est un corps et un langage qui est entièrement qui est tonique, qui est pulsion de vie, qui est en avant, qui est vraiment... Et donc sa langue est aussi très nerveuse comme le corps que je lui donne, que je lui ai imaginé et toute sa manière d'exister, d'être. Le deuxième personnage, Nina, qui est toujours d'ailleurs une très belle femme, mais qui s'est un peu enfermée dans ce personnage et qui n'existe que dans le désir des autres, que dans le regard que les autres portent sur elle, mais elle vit un véritable purgatoire existentiel et elle est, donc je l'ai imaginée très belle, mais enfermée dans cette beauté et puis un peu paralysée. Alors elle est attirée justement par des idées qu'on pourrait qualifier d'extrême droite, sans savoir trop comment se situer. Et donc elle a une langue beaucoup plus classique, elle a une narration assez traditionnelle, parce que justement elle n'a pas réussi encore à s'émanciper. Elle n'a pas les moyens d'inventer sa langue et sa langue intérieure aussi. Et puis la troisième, alors elle a les moyens d'inventer sa langue, c'est une journaliste qui veut écrire, c'est une journaliste qui est arrivée, plus de 50 ans, elle a déjà bien baroudé dans sa vie, c'était une journaliste indépendante qui a été vraiment dans la lutte, dans le combat pour une information indépendante, libre, etc. Et donc elle sait le poids du langage, elle sait l'importance des mots et du sens surtout, et elle est dans un moment de sa vie où elle est... épuisée peut-être par cette lutte, et elle cherche une clairière, un moment de respiration, de souffle, et elle espère le trouver peut-être dans la poésie, dans la création. Donc elle, sa langue est beaucoup plus lyrique, beaucoup plus dans une recherche de réenchantement en fait de l'existence.
La troisième et dernière voix féminine du jour, c'est celle de Juliette Rousseau. Elle est venue en novembre nous présenter son dernier livre Pecnode, à mi-chemin entre l'autobiographie et la poésie. Elle y explore la terre abîmée qu'elle est revenue habiter au sud de Rennes. Et ça, c'est paru aux éditions Cambourakis au mois de septembre. À l'examen, il y a les mots pecno, plouc, beauf, cutéreux, campagnard. Je remarque, même dans les insultes, je n'existe pas. Ça, ce sont vos mots, plutôt au début de l'ouvrage. Et donc, ça donnera le titre à cet ouvrage. Je me demandais si vous aviez... peut-être déjà lu finalement des récits biographiques écrits par des autrices issues du milieu rural.
Oui, bien sûr. On pense évidemment à Marie-Hélène Lafon. Je pense aussi à la poésie d'Angela Duval, sur laquelle j'ai eu l'occasion d'écrire cette année. Oui, évidemment, ça a fait partie de mes lectures. Ce qui a été très très présent dans mes lectures pour Pecnode, ça a été beaucoup l'histoire et la sociologie, et notamment la sociologie du genre et de la ruralité, qui est une sociologie qui nous a offert des textes assez récents. Je me souviens pas, moi, quand j'ai fait des études de sociologie, que c'était une approche qui existait. Et pour le coup, ça m'a vraiment permis de revisiter ma propre histoire, qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses.
Alors, vous dites que vous le savez depuis l'enfance, les tenants de la bonne ruralité en sont paradoxalement devenus les fossoyeurs. Et donc, vous revenez habiter dans la région de votre enfance avec ce désir, vous allez me le dire, plus ou moins conscient, de proposer autre chose. Comment est-ce qu'on fait pour quotidiennement faire exister un dialogue avec les fossoyeurs? C'est la question qui m'habite un peu.
Plusieurs choses. Déjà, c'est pas possible de le faire avec tout le monde. Moi, ça m'a beaucoup questionnée, principalement dans la période politique récente. Parce que je crois une des caractéristiques de la vie rurale telle que je la connais et à laquelle je suis profondément attachée, c'est le fait qu'on nourrit une forme de solidarité matérielle à travers une forme d'autonomie aussi matérielle forte qui se fait de façon indistincte avec les gens qui nous entourent, indépendamment de leurs opinions politiques. Je dirais pas indépendamment de leurs origines, et je pense que ça fait partie des problématiques clairement sur lesquelles moi j'ai envie d'affronter l'ordre social tel qu'il se perpétue, on va dire, à la campagne. Il y a quand même, dans cette vie campagnarde ou rurale, je ne sais pas comment la qualifier, où se joue un ensemble de dynamiques de solidarité, de sociabilité, etc. Une des règles, c'est la règle de ne jamais parler de politique. Et donc ça fait qu'on peut avoir des relations, et c'est mon cas, on peut avoir des très bonnes relations de voisinage avec des gens qui votent à l'autre bout de l'échiquier politique par rapport à nous. Et je pense que ce qui jusque-là, pour moi, consistait en une règle assez peu questionnée, ça me paraissait pas possible de faire autrement, c'est retrouvé profondément questionné, évidemment, avec l'augmentation fulgurante du vote en faveur du Rassemblement National, et qui de fait, je parlais tout à l'heure de déterritorialisation, a pour conséquence de rendre ces territoires inhabitables pour les personnes qui sont en premier lieu visées par les politiques du Rassemblement National. Donc là, on arrive à une sorte de hiatus, en tout cas à quelque chose qu'il faut, à mon avis, questionner dans nos sociabilités, entre ce qui relève d'un héritage de sociabilité désirable et puis ce qui relève des choses avec lesquelles il faut arrêter de composer.
Donc beaucoup d'ambivalence.
Oui, de toute façon, moi ce qui m'intéresse dans la vie, c'est l'ambivalence. J'ai un petit peu du mal avec les approches du monde qui veulent tout lisser d'une manière ou d'une autre. Mais je crois qu'il faut quand même considérer que quand on parle de la ruralité, en tout cas moi ça fait partie des choses de l'ambivalence à partir de laquelle j'ai envie de penser. Quand on parle de la ruralité, on parle d'un espace social qui a été façonné dans un rapport de domination avec l'urbain, avec la ville, avec la modernité. Donc il faut d'abord commencer par comprendre cette domination historique et les implications qu'elle a pour la façon de, à la fois la façon dont on a construit les territoires, mais aussi la façon qu'ont leurs habitants de se subjectiver. Et en même temps, il faut aussi aller regarder de près comment cette subjectivation, est-ce qu'elle a produit aujourd'hui, y compris dans des façons qui peuvent être de se considérer à juste titre comme moins bien traitées par l'État, comme reléguées, etc., peuvent en même temps aller caresser le flanc, voire complètement adhérer à la vision politique du Rassemblement National. Et je crois que c'est dans cette espèce d'ambivalence, en tout cas moi, que j'ai envie d'être aujourd'hui à la fois dans l'écriture, mais aussi dans mes positionnements politiques, c'est-à-dire reconnaître cette construction sociale et politique qui fabrique des ruralités, comme on les connaît aujourd'hui, et la façon dont une des réponses qui est apportée aujourd'hui et qui fait mouche est une réponse absolument ennemie du point de vue politique.
Une question qui va venir un peu faire le lien entre cet ouvrage Péquenaud et puis l'actualité, à savoir la reprise d'une mobilisation du monde agricole, toujours trustée dans les médias par la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, page 101 de votre livre, on lit « D'autres guerres ont cours ici désormais, elles sont certainement moins spectaculaires et leurs morts passent plus inaperçues. La violence a été intériorisée. Dans le monde agricole, on se tue deux fois plus que dans le reste de la population. Les risques sont aggravés si l'on est exploitant de bovins. Les femmes, qui sont plus nombreuses à mourir de violences domestiques à la campagne qu'à la ville, sont aussi touchées. » Je trouve qu'on est sur un récit qui est à la fois complexe, mais quand même avec une forme d'empathie. Je me demandais si, lors des nombreuses rencontres qui ont eu lieu, ça a permis de toucher peut-être des lecteurs de ce monde rural que vous défendez. Je pense que c'est toujours une difficulté à sortir justement de cercles peut-être urbains intéressés par ces questions.
Non, c'est très difficile. Péquenaud est un texte qui a plus c'était à la campagne pour le moment, enfin dans des territoires ruraux, que la vie têtue, et j'en étais très contente. Mais les présentations que j'ai faites dans des zones rurales, c'est très majoritairement des gens qui sont a priori d'accord, acquis à la cause, entre guillemets, que je défends, qui viennent. C'est beaucoup plus difficile de le porter auprès de publics qui pourraient être plus hostiles, pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que je crois que l'écriture et les livres en particulier sont encore aujourd'hui porteurs d'un rapport de domination qui est celui qui vient annihiler les cultures paysannes dans tout ce qu'elles ont, et notamment dans leur dimension orale et dans le fait que les cultures au sens les récits, les chants, etc., se transmettaient principalement de façon orale. C'est une vaste discussion, puisqu'il faudrait parler à la fois de la dimension symbolique, c'est un petit peu ce que je viens de faire, de son poids historique, mais aussi tout simplement de la question de la façon dont le livre est aujourd'hui pris dans un marché capitaliste, et que les pouvoirs publics n'ont pas vraiment réussi à défaire cette chose-là, dans le sens où, enfin, pour le dire peut-être plus simplement, des lieux de partage autour de livres à la campagne, il y en a juste beaucoup moins qu'en ville. Et je pense, après, peut-être par extension, je pense que chez beaucoup de gens, le livre est perçu comme un outil ennemi et pas du tout comme un outil qui peut parler de nous.
Curiosité, c'est terminé. Un programme d'info locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40. Et pour les podcasts, ça se passe en ligne sur canalb.fr.